Swing Time 2017. Swing Time, une émission préparée et présentée aujourd'hui par Alain Charbonnier sur Swing FM 101.2, la radio du Hot Club de Limoges. Bonjour Alain.
Bonjour Martin.
Bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
Quand on donne le micro à Alain, on a le sourire immédiatement.
Ah ben moi aussi.
Hein, c'est bien.
Il n'y a pas de raison.
Alors aujourd'hui, ça souffle.
Ça va souffler, c'est même un vent dominant puisqu'on va consacrer l'émission à Ciné Béchette. Ciné Béchette, un vent dominant, on va comprendre pourquoi.
C'est parti.
Eh ben c'est parti. Alors ce titre, Ciné Béchette, un vent dominant, ce n'est pas une formule, c'est une réalité. Et on va s'en rendre compte très très vite. Alors je rappelle que Ciné Béchette jouait d'un instrument avant, d'abord de la clarinette, puis du saxo soprano. Et sur ces deux biniou, sur ces deux instruments, il dominait tout le monde tant son souffle était puissant. Et il faut bien le dire, sa personnalité était tout à fait impérieuse. Donc toute sa carrière, ça a été un vent dominant quand il soufflait dans un de ces deux biniou.
Quand on dit biniou, c'est pas péjoratif.
C'est
hein
pas péjoratif, non, c'est l'instrument de musique. C'est une formule un peu française tout de même.
Ouais.
Pas que bretonne, française pour dire c'est mon instrument. Voilà.
D'accord.
Même dans les fanfares, ils disent je prends mon biniou.
D'accord.
Donc c'est gentil. Et Ciné Béchette s'est mis au soprano, je pense, pour une raison simple, c'est que c'est un instrument plus puissant encore que la clarinette. Donc ça devait le satisfaire beaucoup plus. Je rappelle les dates de Ciné Béchette. Sa date de naissance est un peu difficile à fixer, mais on est à peu près d'accord aujourd'hui. C'est 1897 et il est décédé, ça on le sait, en 1959 en France, où il s'était, j'allais dire, réfugié. Où il vivait, il se trouvait mieux qu'aux États-Unis, ne serait-ce que pour la société qui n'était pas ségrégative. Ciné fut un musicien multiforme, il a joué de tous les instruments, il y a même un disque, un morceau où il a joué tous les instruments, le piano, la contrebasse, enfin à peu près tout. Mais il a joué très très jeune auprès de son frère, qui était natif comme lui de la Nouvelle-Orléans, et qui lui a appris à jouer de la musique, notamment du saxo. Son frère s'appelait Léonard, il a fini dentiste d'ailleurs, le frère de Sidney. Et Sidney jouait avec son frère, avec d'autres, aux enterrements, au Mardi Gras, au temple le dimanche. Bon, à Nouvelle-Orléans, tout le monde jouait, enfin tout le monde, presque tout le monde jouait de la musique. Et on s'inventait son instrument quand on n'en avait pas. Donc Sidney a voulu copier son frère aîné, Léonard, à la clarinette. Et puis après, il a eu des clarinettistes locaux qui étaient de très très bons clarinettistes et qui lui ont appris l'instrument. Je pense à George Baquet, ou Georges Baquet, puisqu'on est chez les créoles, Lorenzo Tio, ou Big Eye Louis Nelson. Il avait un œil très gros et un autre tout petit, le Louis Nelson en question. Et je voudrais montrer aujourd'hui en quoi le souffle de Ciné fut aussi dominateur. Et je voudrais vous faire écouter un tout premier enregistrement de Ciné Béchette, qui est un chef-d'œuvre. Et c'est même le premier qu'il a enregistré. On va voir qu'il est tout de même très très bon dès le départ. Il a gravé ce titre pendant l'été 1923, il avait donc 26 ans, c'était pas vraiment un débutant évidemment, et il joue de bout en bout du soprano dans cette composition de Fats Waller et de Clarence Williams qui lui dirige l'orchestre. Peut-être même que Clarence Williams n'a pas du tout composé le morceau, mais en général il s'appropriait les morceaux qu'il jouait. Fats Waller, c'est sûr qu'il l'a composé. On va se rendre compte que le style de Sidney s'impose immédiatement. Écoutez plutôt Wild Cat Blues, enregistré à New York le 30 juillet 1923.
Thank you.
Alors, à côté de Sidney Bechet, il y avait Thomas Morris au cornet. On joue du cornet, un piston, plutôt que la trompette à l'époque. John Mayfield au trombone. Et puis, ils avaient un pote à eux au banjo, puisque c'est Narcisse, joli prénom. Narcisse, Buddy Christian. Et Buddy, c'est le copain, c'est le pote. Voilà. Pour se rendre compte de la puissance de Sidney Bechet au soprano ou à la clarinette, eh ben, on va le comparer à Louis Armstrong. Là, c'est un musicien puissant. Et c'est possible, puisque Clarence Williams, dont je viens de parler, les a regroupés dans le même orchestre. C'est un musicien malin, entreprenant. Donc, il les a mis dans son orchestre dans les années 20, pendant les Roaring Twenties, comme on disait, roaring, ce qui était rugissante. On va donc écouter un autre blues, à nouveau co-signé Clarence Williams, mais on comprend pourquoi c'est co-signé Clarence Williams, si ça provoquait beaucoup de musique. Et dans ce blues, on entend Louis, bien sûr, à la trompette, au cornet toujours, et Sidney Bechet qui prend la clarinette d'abord, puis le soprano. On écoute encore un blues, Texas Mono Blues, enregistré toujours à New York le 17 octobre 1924. Annoncer la section rythmique. Alors ça va être très très court parce que dans la section rythmique, il est tout seul le gars.
Donc c'est fait.
C'est fait, mais il faut que je l'annonce. Mais on l'a déjà entendu, c'est le fameux Buddy Christian de tout à l'heure.
D'accord.
Qui marquait le temps au banjo. Donc il est très très efficace, musicien effacé, rythmique et absolument nécessaire dans cet orchestre. Le trombone à l'ancienne qu'on a entendu, qui était lui aussi efficace, s'appelait Charlie Harris. Sidney Bechet a fait équipe dans la vie en musique avec un autre trompettiste majeur de l'histoire du jazz, beaucoup moins connu que Louis Armstrong. C'est le sensationnel et trop rare, à mes yeux, à mon goût, Tommy Lanier, ou Tommy Lanier, si on veut le prononcer, à l'américaine et Lanier en français. Sidney rentrait à ce moment-là de tournée européenne assez agitée. Il pouvait être un peu colérique, il pouvait tirer assez facilement du pistolet, mais il visait mal, donc il a tué personne. Mais bon, il a eu des petits ennuis avec la police, notamment à Paris, un petit peu à Londres. Rentré donc d'Europe, il monte avec Tommy une belle petite formation de studio qui comporte Teddy Nixon au trombone, Hank Duncan qui est un pianiste traditionnel, Wilson Myers à la basse, Maurice Morand à la batterie. Les voici tous dans un titre bien connu qui s'intitule « I found a new baby » et c'est un enregistrement pris à New York le 15 septembre 1932. Souffle. Ah, on n'en peut plus, oui. Alors là, le soprano de Sidney se perçoit clairement, même dans les collectifs où il domine les cuivres. Même le trompettiste Tommy Lanier, pareil, qui est un souffleur. On va passer en 1937 et Sidney Bechet joue maintenant dans l'orchestre de Noble Sissle, qu'il a réintégré. Il avait déjà joué avec Noble Sissle 3 ans auparavant. Et il est maintenant enregistré par Irving Mills. Alors, Irving Mills est un manager connu dans l'histoire du jazz, c'était notamment le manager de Duke Ellington. Il a même lui aussi signé des compositions avec Duke, sans doute ce qu'il a plus signé qu'écrit. Dominique me le confirme, il n'y croit pas. Voilà, ben on a tout de même des gens qui ont touché des royalties, Clarence Williams, Irving Mills, et il y en a d'autres, en signant des morceaux qu'ils n'ont pas forcément composés. Mais en tout cas, notre ami Irving Mills Enfin enregistré Sidney sous l'impulsion d'une admiratrice fervente et influente qui s'appelait Helen Oakley et qui trouvait que Sidney Bechet n'était pas assez valorisé par son chef Noble Sissol. Parce que Noble Sissol, comme beaucoup de chefs d'orchestre, il voulait des musiciens qui lui ne fassent pas d'ombre du tout. Et Sidney faisait forcément de l'ombre. De toute façon, il n'était pas un homme à être effacé. Et vu sa classe, sa technique, son souffle, bon, on le remarquait forcément, ce garçon. Mais Noble Sissol a tout de même prêté sa section rythmique à Sidney pour ses enregistrements. Et les enregistrements sont parus sous le nom, non pas de Sidney Bechet Swingsters, pas du tout, sous le nom de Noble Sissol Swingsters. Il prêtait les gars tout de même. Il faisait rien, mais il prêtait les gars. Donc, c'était son orchestre. Voici une composition de Sidney qui est juste accompagnée donc, par les fameux swingsters de Noble Sissol, Jimmy Miller à la guitare, Jimmy Jones à la basse et Wilbert Kirk au drums, à la batterie. Et ils vont nous jouer un morceau intitulant OK Doc. Doc s'écrit D-O-K-E, mais c'est OK Doc, effectivement, enregistré à New York le 16 avril 1937. Pu remarquer que Sidney Bechet est aussi bon à la clarinette qu'au soprano.
C'est extraordinaire. Ouais, hein,
il est bon. Ah ouais, voilà. Il a commencé par la clarinette. Et fort logiquement, les faces enregistrées dans cette année 1937 vont relancer la carrière de Sidney, alors qu'il avait marqué un petit peu de mou, c'était suite à la crise de 1929 tout de même, où il avait été obligé de faire autre chose comme Tommy Lanier. Mais ça relance sa carrière, notamment à cause de ces enregistrements-là. Et Sidney Bechet va donc être sollicité pour accompagner des chanteuses et des chanteurs à la mode, et des chanteurs et des chanteuses de bon niveau. Un seul exemple, j'ai choisi un morceau que chante Trixie Smith. Trixie Smith est une chanteuse de blues, connue à l'époque, à peu près contemporaine de Sidney. Elle est née en 1895. Sidney va se faire beaucoup plus discret, tout en brodant des phrases musicales très très jolies qui mettent en valeur la voix de Trixie, tout comme le trompettiste que j'annoncerai plus tard. Je ne dis pas qui est-ce maintenant, on a le droit de le deviner évidemment. Et on va prendre le train de marchandises, puisque le titre est Freight Train Blues. C'est enregistré toujours à New York le 26 mai 1938. Donner la réponse au petit blindfolté sur le trompettiste.
Sur le trompettiste.
Hein. Oui. Je vais le dire bientôt, oui, oui. Mais ceux qui ont trouvé que la formation qui accompagnait Trixie Smith, outre Sidney, était fameuse, ben, ont très bon goût. Et je signale, je souligne qu'ils méritent d'être appelés de véritables amateurs de jazz. Il y a les véritables amateurs d'andouillettes, il y a les véritables amateurs de jazz. C'est ce qu'on appelle de real cats. Ce sont des petits chats qui aiment le jazz. Donc je vais dire. Qui jouait de la trompette? Eh bien, c'était le puissant Charlie Chevers. Mais il jouait cette fois-ci tout en douceur, mais il était capable de douceur, ce garçon. Il avait lui aussi un sacré souffle. Et dans la section rythmique, c'était pas n'importe qui, puisqu'on avait Sammy Price au piano. Très bon joueur de blues, de ballade, de boogie, de tout. Un très, très bon pianiste. À la guitare, c'était Teddy Bunn. À la contrebasse, qu'on entend bien et qui est très, très bon, qui assure bien l'assise de l'orchestre, c'est Richard Fulbright. Et le batteur, qui est aussi un spécialiste de la planche à laver, non pas qu'il allait laver son linge lui-même, mais jouait du washboard, c'était O'Neill Spencer. Maintenant, on va écouter une rareté. Une rareté, hein, oui. Martine, on n'écoute pas n'importe quoi ici. On va écouter une rareté. Et alors, comme c'est une rareté, c'est un enregistrement très très court de Sidney Bechet, qu'il a enregistré à New York, mais pour une émission anglaise de la BBC. s'est enregistré au St. Regis Hotel de New York le 5 novembre 1938. Et parmi les gens qui étaient dans la salle, parmi les proches, qui s'est bien sûr pointé très tout à fait devant, mais on savait qu'il était là, eh bien c'était Hugues Panassier qui était en visite à New York et qui était enthousiasmé par Sidney Bechet. Et il relate cela dans son livre « 5 mois à New York ». C'est trouvable que dans les boutiques en ligne d'occasion, mais ça se trouve, hein, si on veut le retrouver. Alors, je ne vais pas annoncer les musiciens qui jouent maintenant, pour une raison toute simple, c'est que le présentateur le fait. J'annonce le titre, par contre, c'est un petit garçon chinois dont on va parler, China Boy, donc enregistré à New York le 5 novembre 1938.
China Boy, with this combination. Soprano sax, Sidney Bechet. Joe Bushkin has gone back onto the piano, Art Shapiro on bass, Zooty Singleton on drums, and Carmen Maestron on guitar. China Boy.
Comme nous le disait Alain Rijoux, président de Swing FM, spécialiste du déménagement, la musique en public, ça déménage plus. C'est ce que tu nous as dit, Alain.
Absolument.
Il est d'accord. Voilà. Ça déménageait ferme. Mais à Swing FM, on sait déménager.
Ça va bientôt arriver,
paraît-il. Mais on revient, nous, à 1938 et on retrouve Sidney Bechet avec Tommy Ladnier dans des enregistrements inoubliables, mais comme tous. Sidney commence au soprano, poursuit à la clarinette et sur ces deux instruments, il domine son monde par sa puissance, son inspiration, même si pour ce dernier critère, Tommy ne lui cède en rien. C'est donc parti pour 64 mesures béchettissimes, soprano clarinette, dans un morceau un petit peu long, qui est un peu nostalgique, c'est « When you and I were young, Maggie ». Maggie, je ne crois pas que ce soit Maggie Thatcher, hein, pas du tout, hein. Et c'est un disque enregistré à New York le 28 novembre 1938, quand on était jeune, Maggie.
Thank you.
Eh bien, je vais vous donner le nom des autres musiciens, puisque je n'avais pas annoncé tout le monde. Au ténor, c'était, si j'ose dire, clarinettiste, ami de Sidney, mais j'y reviendrai un peu plus tard, c'était Milton Mesmero. Au piano, un pianiste un peu dans le style de Hank Duncan qu'on a entendu tout à l'heure, c'est Cliff Jackson. À la guitare, à nouveau Teddy Bunn. À la basse, Elmer James. Et à la batterie, un bon batteur de style New Orleans, c'est Munsey Johnson. On va écouter un autre monstre sacré qui a joué à côté de Sidney, à moins que ce soit Sidney qui a joué à côté du monstre sacré. C'était deux monstres sacrés, finalement. C'était pas Loch Ness, non, parce qu'il a jamais joué de jazz. C'était Jerry Roll Morton. Et pour bien vous montrer la force de Sidney, le voici dans un morceau de bravoure du jazz New Orleans. Ce morceau, c'est High Society, morceau dédié à la haute société. Il y a un superbe clarinettiste, mais c'est pas Sidney, c'est Albert Nicholas. Ou Nicolas, hein, tout, on parlait avec Dominique tout à l'heure, hein, Béchette, Béchet, Lanier, Lanier. Bon, Nicolas ou Nicolas, hein, on peut les prononcer à la française, c'est le nom français. Donc Albert Nicolas qui prend le solo d'avant et d'après le passage de Sidney, qui lui est au soprano. On va donc pouvoir comparer ces deux souffleurs d'anches, si j'ose dire, d'anches à N-C-H-E-S, pas avec un 1, bien sûr. Il n'y a pas de H aspiré, c'est pas une 2. Le H aspiré, c'est en une 2, là, c'est des anches. Voilà, c'est des petits bignots, tout gentils, tout droits, voilà. Un qui est noir et un qui est doré ou argenté. Eh bien, ils vont nous jouer High Society, New York, 14 septembre 1939.
Thank you.
C'était une marche.
Oui.
Voilà. Mais le jazz.
Entraînante.
C'est entraînant. Hein. Et ouais. Le jazz, au départ, à Nouvelle-Orléans, c'était la copie de musique européenne, des marches, des polkas, des mazurkas, bon, etc. Donc on était en plein dedans. Mais c'est du jazz parce que ça swing, évidemment. Et dans la formation, je n'ai pas cité les musiciens, mais il valait le coup. Il y avait Sidney Parry à la trompette, Claude Jones au trombone, un gars heureux au ténor, puisqu'il s'appelle Happy Caldwell, donc il est forcément heureux. Laurence Lucie à la guitare. Alors, je me pose la question, les guitaristes, ils ont tous des prénoms de femmes, parce que tout à l'heure, dans China Bone, c'était Carmen Masseret. Or, Carmen, c'est un homme. Laurence, c'est un homme. Mais ils ont des prénoms un peu féminins, en tout cas pour nous Français, voilà. Mais c'est bien des hommes. À la contrebasse, Wellman Road. Et à la batterie, à nouveau, Z.T. Singleton, un autre très grand batteur, néo-orléanais. Sidney Bechet a joué avec Armstrong, on s'en souvient, du temps du Clarence Williams Blue Five. Mais il a aussi joué avec Armstrong en 1940. Il y a quelques enregistrements, tous superbes. Et il fallait là qu'il souffle fermement et fortement dans sa clarinette, parce qu'il était aux côtés du roi de la trompette, qui avait aussi un sacré souffle. Mais Sidney a du souffle, il a du culot, il a un ego considérable, il n'a pas se laissé impressionner par Louis Armstrong. Et c'était, tu nous dis, Dominique ?
Et réciproquement.
Et réciproquement. L'autre avait le Lego aussi. Bon, on verra. Je raconterai un peu après le disque ce qui se sont dit. Mais en attendant, on écoute ce magnifique Down in Honky Tonk. C'est un disque enregistré à New York le 27 mai 1940. C'était bon.
Ouais.
Voilà. Ouais. Alors, Sidney a reproché à Louise d'avoir voulu tirer la couverture à lui.
C'est incroyable.
Et inversement, évidemment.
Ouais.
C'est ce qu'on disait à l'instant avec Dominique. On disait, bon, chacun avait un ego très surdimensionné.
mais c'était deux grands créateurs de la musique de jazz.
Ben voilà, c'est ça. Donc, et on ne peut pas mettre... Alors, en Afrique, on aurait dit on ne peut pas mettre deux crocodiles dans le même marigot. Ouais, ouais. Et à la Nouvelle-Orléans, on ne peut pas mettre deux... Mais ce n'est pas pareil à la Nouvelle-Orléans. On ne peut pas mettre deux caïmans dans le même bayou. Mais le résultat est le même. C'est plus précis.
Ah oui, voilà. C'est ça.
Hein, c'est quasiment la même chose, mais c'est plus précis. Voilà. Bon, on va redevenir très très sérieux, surtout que je n'ai pas indiqué quels étaient les accompagnateurs qui touchaient bien leur bille aussi. Au trombone, très reconnaissable, c'est Claude Jones. À la guitare, Bernard Addison. Lui aussi, il ne fait pas tellement de bruit et il bat très très bien. Il donne bien le rythme, il donne bien le tempo. Et on avait à nouveau le génial Zeta Singleton à la batterie. C'était encore du New Orleans majuscule. Depuis 1938, Sidney appelle ses différents orchestres de studio et sur scène les New Orleans Feet Warmers. Ils ont toujours ce nom-là, les Feet Warmers, les chauffeurs de pied. C'est ce qui arrive à tout le monde, aux auditeurs en ce moment qui tapent du pied. Les voisins râlent peut-être, mais ils tapent du pied, ils ont les pieds chauds. Eh bien, c'est ça, des Feet Warmers. Ce sont nos auditeurs et ce sont les orchestres de Sidney Bechet. On va écouter deux formules différentes de ces New Orleans Feet Warmers, dans lesquelles Sidney domine toujours son monde par sa puissance, ce qui ne limite pas le moins du monde, son inspiration. Il joue d'abord avec Henry Goodwin à la trompette, qui chante aussi, avec Vic Dickinson au trombone et qui chante, avec Don Donaldson au piano, Ernest Williamson à la basse et Manzi Johnson à la batterie. Et dans l'orchestre suivant, toujours les New Orleans Feet Warmers, mais nous avons Charlie Chavez à la trompette, Willie the Lion Smith au piano, Everett Barksdale à la guitare, Wellman Broad est à la basse, Sidney Catlett à la batterie. C'est donc que du beau monde pour jouer successivement donc deux morceaux. Blues in the Air, enregistré à New York le 14 octobre 1941, et 12th Street Rag, toujours à New York, 10 jours plus tard, le 24 octobre 1941. Ha ha ha. Tu as des mélanges encore.
Oui.
C'était beau. Hein, c'était très beau. Sidney Bechet est magnifique, bien sûr. Mm-hmm. Mais les autres sont très bons aussi. Hein. Même Henry Godwin, trompettiste peu connu, hein, qu'on a entendu dans le morceau, le premier de morceau, et qui, à la trompette, racontait une histoire. Il parlait vraiment. Hein. Si on réécoute, on a le droit, hein, on télécharge,
on réécoute,
on va réécouter Henry Godwin qui nous parle à nous, personnellement, à personne d'autre. Et Willie Smith prenait pareil un solo de piano sensationnel, mais comme il ne pouvait pas jouer mal, Willie Smith, c'est même pas la peine de dire que c'est sensationnel, hein, on le sait. Et on a remarqué aussi, parce qu'on a bien approfondi le style de Sidney, on a bien fait travailler nos oreilles, il jouait du soprano dans le premier titre, dans le second, il jouait de la clarinette, et on a remarqué que le souffle du vent dégagé était exactement le même. On était en 41, on va passer en 1944. Sidney Bechet emporte sa clarinette dans le studio d'une nouvelle marque de disques qui naît à ce moment-là, qui est la marque Blue Note, qui enregistre un peu de tout, mais parfois de très bon jazz. Et Sidney, que ce soit dans les collectifs ou en solo, eh bien, souffle dans son biniou qui s'entend parfaitement. Et pourtant, à nouveau, on a de sacrés souffleurs. Sidney Parry à la trompette, Vic Dickinson au trombone. Donc, des gens qui ne sont pas vraiment asthmatiques. Vous allez pouvoir écouter ce Jazz Me Blues, New York, 20 décembre 44.
Thank you.
Eh bien, mes petits chats, c'était qui à la rythmique? Bah, il faut que je la donne, cette section rythmique. Art Oates au piano, George Pops Foster à la contrebasse et à nouveau Menzie Johnson à la batterie. Pendant 2 ans et demi, de 1945 à 1947, la marque King Jazz, donc encore une nouvelle marque de disques, qui a été créée par Milton Mesmerow, qu'on a écouté tout à l'heure, eh bien, cette marque King Jazz a gravé beaucoup de super musique, dont une bonne partie est due à l'association Sidney Bechet au soprano, Mesmerow à la clarinette. Et Hugues Panassier en a fait une analyse définitive dans les premiers bulletins du Yacht Club de France. Donc ça, il faut les trouver aux archives ou chez les vieux amateurs de jazz. Mais ils ne les prêtent pas facilement parce qu'ils ont peur qu'on leur abîme, évidemment. Et aussi dans la revue du jazz, qui est encore plus rare. Nous allons écouter deux morceaux que vous pouvez trouver dans un coffret Storyville. Malgré son nom, c'est une marque danoise. Ce coffret s'intitule The King Jazz Records Story, Sidney Bechet et ou N. Mesmerow. Nous allons écouter deux titres, successivement House Party, puis Minor Swoon. Ce sont des disques enregistrés à New York, tous les deux, le 30 juillet 1945. Thank you. c'était bon.
Yes.
Alors, je vais donner à nouveau la composition de l'orchestre. À la trompette, c'est pareil, c'était un gars qui jouait Hot, c'était Otis Page. Au piano, à nouveau, Sammy Price. À la guitare, Danny Barker, encore un néo-orléanais. À la contrebasse, Pop Foster. Et à la batterie, Bixit Catlett, qui était à côté ou derrière, comme on veut, un Béchette dominateur, parce qu'il soufflait encore très très bien. Nous étions en 1945, nous allons passer à une très très grande année, qui est l'année 1948. C'est une année importante pour tout le monde, nous sommes d'accord.
Oui.
Bon, enfin, on est d'accord.
Pour moi, oui.
Pour Dominique aussi, pour moi
et
aussi,
pour
et pour l'autre club de Limoges,
et l'autre club.
Qui a été fondé.
Évidemment.
Voilà, on pensait plutôt au club de Limoges, bien sûr. Notre ego est moins surdimensionné que ça. Donc, c'était une grande année pour le jazz à Limoges. Et aussi concernant Sidney Béchette, qui était en France à ce moment-là, qui faisait une nouvelle traversée de l'Atlantique. C'était à l'époque où il était un peu entre les deux rives de l'Atlantique. Et malgré ses voyages incessants, il n'a pas perdu son souffle. Bon, il ne le faisait pas à vélo tout de même, ni à la rame. Il prenait un bateau ou un avion. Et pourquoi je peux dire qu'il n'a pas perdu son souffle? Parce qu'on a un titre qui le prouve. Il joue avec de petits Français qui devaient être un petit peu intimidés, mais qui étaient pleins d'enthousiasme. Je cite les petits Français de l'époque, qui étaient des genoux, ils ne le sont plus aujourd'hui. Hélas, beaucoup sont décédés. C'est Gérard Bayol à la trompette, Benny Vasseur au trombone, Eddie Bernard au piano, Jean-Pierre Sasson à la guitare, Guy de Fatto à la basse. Guy de Fatto, je le dis comme ça au passage, il a fini sa vie dans les ordres. Plus tard, on va l'appeler mon père, Guy de Fatto. Pour le moment, on l'appelle Guy. Allez, Guy, il joue de la contrebasse. Et André Jourdan à la batterie. Sidney intervient au soprano dans ce flamboyant « On the Sunny Side of the Street » enregistré à Paris le 23 juin 1948. À Londres, l'année suivante, donc en 1949, on retrouve Sidney Béchette au sein d'un octet, donc des huit musiciens du trompettiste local Humphrey Littleton, Et dans un environnement musical qui est beaucoup plus ordinaire, la magistrale puissance de Sidney apparaît encore plus imposante, surtout lorsque son solo de soprano suit celui d'un clarinettiste quelconque, et là je suis gentil, qui s'appelle Ian Christie. Mais il n'est pas tellement Christie que la clarinette, ce pauvre Ian Christie. Donc on va écouter Sidney. La démonstration que Sidney, c'est un sacré souffle, a-t-elle encore besoin d'être faite? Je ne sais pas. Écoutons en attendant Some of His Days, Londres, 13 novembre 1949. Sidney Bechet, un vent dominant, on va essayer de s'en convaincre encore un peu plus. On va se rendre salle Pleyel, par exemple pour le concert du 5 novembre 1952. Sidney Bechet est accompagné par l'orchestre du cher Claude Luther, qui joue la clarinette évidemment. Cet orchestre comprend Guy Longuyon à la trompette, Bernard Zacharias au trombone, Raymond Foll au piano, Roland Bianchini à la contrebasse et Moustache Galipides à la batterie, qu'on appellera bientôt uniquement Moustache. Le soprano de Sidney imprime toujours ce même vent dominant, mais le jeune Claude Luther ne s'en laisse pas compter, comme vous allez le percevoir avec ce Porter Love Song, enregistré donc à Paris, à Pleyel, 5 novembre 1952. Eh bien, nous allons terminer l'émission avec un Sidney Bechet qui joue toujours en public, ce qui le galvanisait. Alors, je dis bien qui galvanisait Sidney Bechet, pas le soprano, parce que le soprano galvanisé, ça serait de la ferraille. Hein. Donc, c'est Sidney qui est galvanisé par le public, on a pu s'en rendre compte déjà. Et nous sommes en 1958, on est en Europe, au cœur de l'Europe, en Belgique. Traité de Rome, c'est 57. Juste un petit peu d'histoire en passant, là. Voilà.
Et donc, voilà.
Et Bruxelles était la capitale de la communauté économique européenne. Mais Bruxelles organise aussi, cette année 58, une exposition universelle d'avril à octobre. Ceux qui ont lu Tintin à l'époque, comme moi, se souviennent d'une couverture de journal Tintin où il y avait l'atomium. Bon, je ferme la parenthèse parce que je suis un peu hors sujet. Bon, mais on est plusieurs ici, Alain Réjou aussi, bon, on est plusieurs à avoir lu Tintin et se souvenir de cela. Sidney Bechet, lui, fait du jazz, évidemment, je ne sais pas s'il lit Tintin, et il est accompagné d'un sacré orchestre, il y a Buck Clayton à la trompette, il y a Vic Dickinson au trombone, il y a George Vane au piano, qui lui est quelqu'un qui organise des tournées, qui avait dû organiser cette tournée et qui joue bien du piano d'ailleurs. Il y a Arvel Shaw à la contrebasse qui a joué avec Armstrong. Et il y a Kansas Films à la batterie. Kansas Films qui avait vécu à un moment donné en France, tout comme Sidney. Et personne, et Dominique nous précise à propos de Kansas Films.
À cette époque-là, il vivait en France. Oui.
Voilà, et il vivait bien en France, voilà. Mmh. On se réfère toujours à Dominique. Qui est tout de même notre Bible vivante ici.
Notre référent.
Ouais. C'est notre référent, voilà. Heureusement qu'on l'a. Merci Dominique. Donc, personne ne serait étonné d'entendre la carotte de Sidney. La carotte, c'est son soprano, au-dessus de tous, même de ceux que j'ai cités. Et d'autant qu'outre la propension de Sidney à vouloir toujours jouer plus fort que les autres, mais bien, hein, évidemment, la prise de son accentue encore sa présence. Donc, l'ingénieur du son soit était très attiré par Sidney, soit était payé par Sidney, mais non, il était attiré simplement par Sidney. Et juste pour être sûr que le bulletin météo annoncé au départ, un vent dominant, n'était pas faux, une dernière rafale de vent dominant avec cette Indiana enregistrée à Bruxelles le 29 juillet 58, et on en a pour 6 minutes.
And now we'd like to play for you back home again in Indiana. Ha ha ha!
est-ce qu'on a écouté la belle musique aujourd'hui, Martine?
Oh là là, magnifique, magnifique.
C'était joli, hein, c'était
ouais,
beau.
C'était très très bien.
Alors, il ne s'agissait pas de retracer toute la carrière de Sidney aujourd'hui, mais de montrer tout autant sa puissance que sa rage de jouer, que ce soit la clarinette ou au soprano, on l'a entendu dans les deux, sur les autres instruments. Et quel que soit le contexte musical, qu'il joue avec Charlie Shavers, Buck Clayton, Charlie Hervis, Vic Dickinson... Ça, ce sont deux trompettistes, deux trombonistes. Sidney ne peut s'empêcher de couvrir les autres, mais il couvre bien, il joue très bien, il accompagne très bien. Et même quand il joue avec Satchmo, avec Louis Armstrong, en solo. Et c'était un musicien brillant, mais pas facile à fréquenter sur scène, à moins d'avoir autant d'ego et de puissance que lui. C'est le cas de la plupart des musiciens qu'on a entendus aujourd'hui. Et on a pu constater que le vent dominant devait s'affronter à des vents contraires. Les vents contraires étaient aussi puissants que les vents dominants. Et tout ça faisait de la très belle musique. Heureusement, Sidney Bechet était un musicien hors pair, maîtrisant à peu près tous les instruments, à l'aise aussi bien dans le contrepoint que dans le blues, capable des solis les plus fous et les obligati les plus chatoyants. C'était un immense mélodiste. On est d'accord avec ça, je pense.
Complètement.
Complètement. Bref, un des maîtres du jazz... Qu'on ne se lasse pas d'écouter, Dominique Gouguet est-il d'accord avec cette notion du maître du jazz qu'on ne se lasse pas d'écouter? Il répond.
Il est d'accord.
Il est d'accord. On est tous d'accord. Tout cela est formidable. Et Sidney Bechet, un vent dominant, on répond oui, cette émission en était la preuve.
C'était Swing Time 2017. Cette émission a été préparée par Alain Charbonnier. Alain, est-ce que le vent te ramènera vers nous la semaine prochaine?
Peut-être, on va essayer, mais ça dépend dans quel sens il souffle.
Voilà,
on va mais surveiller. Comme il y a des vents contraires, on a dit, donc logiquement, je devrais aller très très loin et revenir au point de départ. Il y a toutes les chances que je sois là.
Ok, bon vent, à bientôt.
Bon vent.